La CCR, donc 5e saison et Radio Royan, est en cours de DLA, un dispositif local d'accompagnement. C'est un moyen d'accompagner la structuration et la restructuration de notre projet associatif. C'est quelque chose dont peuvent bénéficier toutes les associations. C'est une structure qui s'appelle Initiactive, qui met en lien des associations comme les nôtres avec des consultants extérieurs qui font un diagnostic, un audit de comment ça se passe dans la structure et qui après accompagnent le changement dans cette structure. Et donc la CCR est en cours cet automne, on vous l'a annoncé dans nos newsletters divers et variés. Et nous, on est accompagnés par Bernat Giacomo. Et bonjour Bernat.
Bonjour. J'allais dire adieu.
J'ai un peu tendance à parler occitan souvent.
Et du coup, on va juste prendre quelques minutes pour aussi donner un peu à nos auditeurs et nos auditrices comment tu travailles, quel est ton parcours pour arriver aujourd'hui là à accompagner la CCR dans le changement de son projet associatif, en tout cas de la réflexion, et comment tu t'y prends. Alors peut-être d'abord, d'où tu viens professionnellement ?
Alors en fait, je viens d'une expérience professionnelle et associative à la fois, donc depuis pas mal de temps. D'abord dans l'associatif et ensuite dans une association qui s'est transformée en SCOP et qui faisait justement de la production événementielle, artistique, du conseil, voilà. Et donc c'est cette expérience et puis cette appétence aussi pour... accompagner le développement, que ce soit avec les collectivités ou avec d'autres associations, avec des porteurs de projets en général, qui m'a amené petit à petit à faire de l'accompagnement sous des formes diverses et puis un jour être sollicité par les gens qui gèrent les dispositifs locaux d'accompagnement. Voilà, et du coup, je suis allé un peu en Bretagne, un peu en Drôme, un tout petit peu en Auvergne, où pourtant je réside, pour accompagner mais toutes sortes de structures d'ailleurs. Beaucoup dans la culture, mais pas seulement, des fois dans l'agriculture, des fois dans l'environnement aussi. C'est d'abord, je pense, l'aboutissement d'une expérience qui m'a amené à accompagner les autres.
D'abord, tu avais vraiment les mains dans le cambouis, tu étais un acteur de terrain.
Ah oui, j'ai été président d'association, trésorier d'association, gérant de SCOP, et puis consultant. J'ai fait beaucoup de métiers. Et avant même, j'étais aussi dans l'ingénierie forestière, mais c'était il y a beaucoup plus longtemps encore.
Et avant d'être vraiment dans le comment, ce serait quand même intéressant parce que nous, donc là, on vient de finir la deuxième étape de ce DLA avec toi et on pose des constats quand même sur le paysage culturel aujourd'hui. Est-ce que, en quelques phrases, tu arriverais à donner là, un peu aux auditeurs, auditrices, ce que toi, tu constates comme l'évolution du secteur culturel et associatif aujourd'hui ?
Alors, sur le territoire et sur le côté politique, action culturelle. Ce qui est clair, c'est que comme dans beaucoup de territoires, il y a une asso qui s'appelle la CCR, qui est historique, qui est vraiment ancrée, qui a créé beaucoup de choses, des choses qui, à l'époque, étaient novatrices, parce qu'il n'y avait pas des politiques culturelles à l'échelle des territoires, et que du coup, ça a donné à cette CCR vraiment une place particulière, singulière et remarquée. Mais entre-temps, les collectivités, les communautés de communes ont pris ce qu'on appelle des compétences culturelles. Ils se sont emparés de cette question et du coup, il y a des initiatives qui ont été prises, des institutions qui ont été mises en place, des procédures, des financements particuliers qui en plus sont venus un peu aussi de la part des ministères ou des collectivités supérieures, que ce soit les départements ou les régions. Et tout ça, ça change complètement le paysage. À cela, il faut ajouter au fait aussi que c'est un territoire où sont venus s'installer peut-être, où ont éclos d'autres initiatives, là où il y avait peut-être un peu la page blanche à une époque. Et donc tout ça, ça contribue également à faire que le paysage d'aujourd'hui n'est plus le même. Et puis, alors après, si on parle des associations, tout le monde... constate que il est de plus en plus compliqué d'impliquer des bénévoles dans un fonctionnement qui, lui, est obligé de devenir de plus en plus professionnel pour faire face justement à toutes ces procédures, tous ces organismes qui financent, qui vous demandent des dossiers, qui vous demandent aussi de là. Voilà, donc ça c'est compliqué parce que les bénévoles, il faut qu'en plus ils deviennent des patrons d'entreprises culturelles quasiment, quoi. Et ça, bon, ben, quand on est bénévole, c'est pas forcément pour ça qu'on est venu, quoi. Et puis on sait pas forcément faire, on se sent parfois dépassé. Voilà, donc c'est aussi dans ce contexte que la CCR, comme plein d'autres associations, doit faire évoluer son projet, son fonctionnement, etc. etc. quoi. Voilà, c'est pas original. Mais ça touche très particulièrement tout le monde et en particulier la CCR, bien sûr.
Et du coup, la manière d'être une association il y a 30 ans, quand ce soit une association culturelle, mais aussi d'éducation populaire, une radio associative par exemple, ne peut plus être portée de la même manière. Aujourd'hui, on le dit, les procédures s'alourdissent, les dispositifs, il faut rentrer dans les dispositifs, il faut chercher des publics, il faut, enfin voilà, il y a des histoires de concurrence, tout ça. Et du coup, là, on est encore tout frais là, dans la réflexion, mais de se dire comment nous, alors que ce soit la CCR, mais tu le disais, plein d'autres associations, comment on repense à la faveur de ces nouveaux paysages-là, notre activité et notre ancrage et le sens qu'on met dans nos actions, quoi.
Ben, je pense qu'il faut mettre à plat. Il faut mettre à plat tout ce qu'on fait et se poser les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi on le fait, comment on le fait, à quel résultat on arrive, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on équilibre, est-ce qu'on arrive à fidéliser aussi les gens qui travaillent, les gens qui sont bénévoles, est-ce qu'il y a une évolution plutôt positive ou est-ce qu'on est en train de constater une dégringolade au, je sais pas, au niveau financier ou au niveau investissement des gens. Donc il faut faire un état des lieux, quoi. Il faut faire sans trop de complaisance, hein. Il faut regarder les choses. Alors c'est là que moi, en tant qu'intervenant extérieur, comme pour d'autres, hein, collègues, l'intérêt c'est d'avoir un regard extérieur, c'est de ne pas être pris dans l'histoire, dans voilà, toutes les petites contraintes locales, les connivences, les habitudes, etc. On arrive avec un œil neuf, quoi. Et puis si possible, un œil de quelqu'un qui a un peu vu des choses ailleurs aussi, quoi, et qui peut quand même apporter, faire profiter de son expérience, quoi. Voilà. Et c'est vrai que tout seul, c'est pas facile. Et moi, je le dis d'autant plus facilement que moi-même, dans ce que j'ai vécu, il y a des moments, ça a été bien que quelqu'un d'autre intervienne et vienne nous aider à réfléchir.
Et du coup, là, on est un peu déjà dans le comment, mais c'est vrai que la première étape, ça a été de faire ce diagnostic partagé, c'est-à-dire de poser à plat, de décortiquer, de déplier des implicites aussi, des choses, des fonctionnements. Alors là, il y a des gens qui sont très anciens dans l'association, d'autres beaucoup plus récents, de tout poser pour pas qu'il y ait ces implicites-là qui traînent. Donc toi, tu nous forces un peu là à les déplier, à nous demander. C'est pas facile, hein. Et là, du coup, on va vers quoi quand tu es dans un DLA, ton objectif, toi, comment tu réfléchis les choses pour que ton action, ton intervention, elle satisfasse ce pourquoi tu es là, quoi.
Comme tu le dis, il y a tout ce temps-là, effectivement, de diagnostic, de mise à plat, d'introspection, on va dire. Donc là, moi, je demande aux gens de répondre à des consignes successives qui, parfois, donnent l'impression, d'ailleurs, de rosiguer le même os, comme on dirait chez moi. Mais justement, parce qu'on l'attaque de manière différente, des fois, ça permet un peu d'aller plus loin, quoi. Et cette étape-là, c'est vrai qu'elle peut paraître fastidieuse, fatigante.
Exigeante,
ouais. Mais si on ne le fait pas, on ne peut pas se projeter derrière. Parce que si on n'a pas fait des constats et qu'on ne s'est pas mis d'accord qu'il y avait ça à régler, qu'il y avait ça qui n'allait pas, ou que ça, c'était un atout, comment on fait pour se projeter? On va se projeter n'importe où, nulle part, qu'on ne sait pas où, quoi. Et donc, après, effectivement, il y a une deuxième étape qui est de dire, voilà, on sait la vocation qu'on a aujourd'hui, on sait le contexte dans lequel on travaille, on sait les évolutions qu'on a vues, qu'on a vécues. Maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Et donc, on se dit ça, on se dit où est-ce qu'on veut aller, et on essaie de se mettre d'accord sur quelques grands axes de travail. Et ensuite, après, chercher le chemin pour y arriver, les moyens, voir documenter s'il y a des choses qui sont possibles ou impossibles, compatibles ou pas compatibles, et voir si finalement on a le choix après entre plusieurs scénarios ou pas. Et après, il faut justement documenter chaque scénario, voir les avantages et les inconvénients. Et puis, à un moment donné, choisir, quoi. Hein. Et entre-temps, c'est pas mal aussi d'interviewer, questionner ses partenaires. Donc là, moi, en tant que consultant, je suis amené à consulter justement les partenaires au moins à mi-chemin, là, pour voir. Et puis, à la fin, bien sûr, on va aussi avoir à rendre compte de ce travail, à la fois pour Initiative qui finance le travail du consultant, mais aussi par rapport à ses partenaires, pour leur dire, ben voilà le chemin qu'on a fait, voilà à quoi on arrive, comment vous le sentez, qu'est-ce que vous en pensez. Parce que bon, aujourd'hui, on vit dans un contexte justement où on ne peut plus travailler tout seul, quoi. C'est plus possible, quoi. Ce qui était moins le cas il y a des années, hein, où à la limite, on défrichait le terrain, quoi.
Et puis aussi, il y a des années, peut-être il y avait plus de subventions de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs institutionnels qui donnaient des finances à des associations comme la nôtre ou comme des structures d'éducation populaire en disant « faites vos travail ». Et que là, maintenant, on n'est plus sur des rentabilités par projet ou ce genre de choses. Dans l'évolution, en tout cas, ça, c'est quand même des gros changements.
Oui, c'est devenu plus complexe. C'est clair qu'il y a de plus en plus de procédures, d'appels à projets. Aujourd'hui, une association ou un projet culturel ne se finance plus de la même façon qu'avant. Et ça devient effectivement à la fois plus complexe, plus chronophage. C'est ça aussi qui fait que et coûteux, du coup, parce qu'il faut des gens un peu spécialisés qui sachent le faire. C'est un peu le paradoxe dans lequel se retrouvent aujourd'hui beaucoup d'associations. C'est que finalement, elles sont obligées de se professionnaliser pour pouvoir obtenir les moyens de fonctionner et donc ça les met parfois à mal, quoi, hein. C'est difficile, hein. Il faut les trouver, et puis il faut avoir aussi la volonté et trouver des gens qui ont envie d'aller là-dedans, quoi.
Ouais, et puis du travail souvent très technique, assez ardu. Et pour finir, toi qui es extérieur au Royan-Vercors, nous on baigne un peu dans ce territoire-là, les gens qui écoutent la radio font partie de ce territoire-là. Qu'est-ce que tu as comme vision? On t'en donne un peu une vision en nous écoutant là et en appelant nos partenaires, nos financeurs. Qu'est-ce que tu as comme vision de ce territoire par rapport aux autres territoires que tu connais, que tu as connus dans ta carrière?
Ah ben, c'est un territoire que je ne connaissais pas. À part des souvenirs d'enfance quand je montais dans le Vercors dans une famille qui nous recevait des enfants, mais c'est tout. Et je ne savais pas par quel chemin on passait pour y aller. Donc j'ai l'impression que le Royan est un territoire original, à la fois un peu à l'écart et tout proche de plein d'axes de circulation. Un territoire aussi qui a une identité, qui a un vrai patrimoine environnemental, culturel, et même artisanal et industriel, j'ai l'impression, agricole, enfin, où il y a plein de choses, mais comme dans beaucoup de territoires finalement, qui souvent ont eu du mal à valoriser réellement tout ce qu'ils avaient sous les pieds, quoi. Moi, pendant ma vie professionnelle, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur révéler les patrimoines enfouis et les remettre au goût du jour avec une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle approche, pour essayer d'en faire un atout, un carburant du territoire. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment un endroit où il y a de quoi. Moi, souvent, je disais, je viens là pour forer les puits de pétrole fictifs, les puits de pétrole, on va dire, virtuels, quoi. C'est-à-dire les ressources qu'il y a. Et j'ai l'impression que ça, ici, il y en a. Alors, bon, peut-être, il y a déjà cette pression touristique qui fait que certaines choses ont été mises en valeur. Là, ça m'intéresserait de connaître un peu plus, d'ailleurs, puisque moi, je viens très ponctuellement, très succinctement, hein, je ne peux pas la prétention de connaître. Mais ce que vous m'en racontez, ou ce que, apparemment, j'ai un peu entendu sur les ondes de Radio Royan-Vercors, me fait penser qu'il y a, ouais, il y a quelque chose d'intéressant ici.
Est-ce que tu as un mot d'espoir pour notre structure, que ce soit la CCR 5e saison ou la CCR Radio Royan? Est-ce que tu as envie de nous mettre un petit mot d'espoir avant de se quitter?
Ah ben oui, 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 parce que déjà, il y a l'énergie que vous y mettez actuellement à réfléchir, la passion dont vous témoignez, et puis des idées qui émergent, voilà, et comment dire, vous n'avez pas peur d'envisager de changer les choses tout en gardant un peu, comment dire, l'objectif de fond, l'ADN de départ, quoi. Donc c'est important, ça, c'est parce qu'on pourrait dire au bout de 40 ou 50 ans, bah, ils sont fatigués, ils plient les gaules, ils s'en vont, quoi. Mais non, voilà, quoi. Bon, et puis ce territoire, il a aussi des nouveaux arrivants, il a peut-être des nouvelles énergies. Et j'ai l'impression qu'ici, par contre, votre radio peut être un sacré facteur pour organiser un peu la rencontre et faciliter la rencontre entre les habitants de souche ou qui sont venus ici il y a déjà un certain temps, parce que bon, il y en a aussi, et puis ceux qui viennent d'arriver, dans la mesure où tout le monde a envie de dialoguer, de se connaître, je veux dire, c'est jouable, quoi. Et une radio peut être un bon vecteur pour cette interconnaissance, cette intercompréhension, etc., et qui peut faciliter derrière, justement, des initiatives citoyennes et, voilà, utiles au territoire.
Malgré le contexte économique tendu.
Ouais, mais ça, c'est vrai partout. Voilà, c'est vrai partout. Mais dans des contextes comme cela, justement, c'est là que la solidarité, la capacité des gens à être solidaires est importante, quoi. Et pour ça, il faut se connaître, se reconnaître, se parler. C'est souvent la chose la plus complexe sur un territoire.
Eh bien, Bernard, merci. On va se retrouver, nous, les 8 et 9 novembre prochains pour continuer à réfléchir. Et puis, on donnera des nouvelles aux auditeurs, auditrices.
Avec plaisir. Adesias.